Grabbed by Radulov at center ice. Deals it in. Ruda pokes it out to Victor Hedman. Cross a Stamkos down the right wing. Cross the blue line, right circle. Stamkos open. Shoot, score! Stamkos! And it's 2-0 Lightning!
Look at the players going crazy for Steven. That is unbelievable.
Ça, c'est la voix de Félix Positeau, le ha, ha, ha. Ça, c'est Phil qui avait l'air content. Bonsoir, Danny Dubé. Comment ça va?
Salut, Mario.
Ouais, ouais. Puis en même temps, on salue Félix Positeau, lui qui a donné la chance à Manon Réaume d'endosser l'uniforme dans une vraie situation de match il y a bien des années. C'était l'anniversaire de ça hier. Manon qui l'a remercié sur Twitter. Mais c'est vrai qu'il n'a pas joué longtemps, Steven Stamkos. C'était un beau moment. Là, j'ai hâte de voir, je sais pas, il n'y avait pas la face d'un gars qui avait aggravé sa blessure. Non. Puis là, ben, il vient d'aller. Il est allé chercher toute la légitimité d'avoir senti qu'il faisait vraiment partie de l'édition gagnante de Tampa Bay, même s'il n'aura joué que ces minutes-là, Danny, hier.
Ouais, ben en fait, écoute, moi j'étais très surpris de le voir quitter après le but. Je cherchais à quel moment, parce qu'on nous disait, bon, c'est blessé probablement en contournant, en accélérant. Alors, écoute, il y a une chose qui est sûre, là, c'est que, tu sais, je t'avais parlé du système à 7 défenseurs, qu'il fallait éliminer ça, il fallait jouer avec 4 trios.
Oui.
Par la force des choses, Luke Shen s'est blessé. On est allé avec 4 trios. Puis ça a bien servi l'équipe de John Cooper pour une raison évidente. Je pense que la force du Lightning, c'est le tempo. Je t'ai dit au début de la série, je pense que Dallas n'est pas capable de suivre ce genre de tempo. Mm-hmm. Mais pour ça, il faut l'imposer. Donc, il faut avoir la rondelle, il faut imposer le tempo. Ça veut dire aussi, il faut vraiment que tu domines l'adversaire, pas seulement quand tu as la rondelle, mais lorsque tu ne l'as pas, il doit la récupérer rapidement. Puis l'aspect de la pression, de l'échec avant. Hey, tu sais que dans les... C'est en moyenne 50 mises en échec par match de la part des deux équipes. Là. Puis, et moi, j'ai vu le Lightning des soirs dans la série précédente donner jusqu'à 70 mises en échec. Mm-hmm. Donc, écoute,
ils sont capables de jouer à ce jeu-là. Il n'y a pas de trouble.
Oui, il n'y a pas de trouble.
Mais par contre, il faut qu'ils encaissent aussi parce que Dallas aussi en distribue.
Ben, tu as raison, Mario, par en même temps, c'est pas des surhumains. À un moment donné, là, tu vides le réservoir. Mais une des choses que je fais une parenthèse, je mets en perspective, c'est que dans la bulle, là, ça aide les équipes qui ont des joueurs, mettons, avec des bobos. Parce que, imagine quand tu joues deux matchs, tu voyages, tu reviens dans ta ville, tu t'en vas dans la ville de l'adversaire. Tout ce temps-là, tu ne peux pas faire de traitement. Là, t'es sur un campement. Mm-hmm. Donc, l'unité médicale, les soins aux joueurs, tout ce qui est massothérapie, tout ce qui est thérapie, tout ce qu'on peut... C'est incroyable les moyens qu'on peut déployer pour réussir à remettre un joueur sur pied ou sur la traque. Et je l'ai constaté parce que moi, je regardais Braden Point et pour moi, tu sais, c'est sûr qu'il n'est pas à 100%, mais il joue. Il joue, puis il contribue, puis écoute, et... Pour
tout
eux,
un joueur
là,
de hockey, d'ailleurs.
C'est tout un joueur de hockey. C'est tout un joueur
de hockey.
Je peux
pas croire que ce gars-là a été repêché en troisième round. Tu sais, ça arrive, là. Il y a plusieurs équipes à blâmer. C'est pas de blâmer le Canadien ou un autre, mais il jouait dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais c'est incroyable, pareil. Puis c'est pas un cas unique. Il y en a d'autres qui ont échappé au regard des recruteurs. Mais un gars qui devient, là, un des meilleurs joueurs de la Ligue. Pas un bon joueur, là. La crème de la crème, là. Qui est passé sous le radar de même, c'est assez impressionnant.
Ben, en tout cas,
il a été repêché en troisième, quand même.
Troisième round, là, c'est quand même un joueur sur qui je pense que t'as un certain espoir.
Oui, 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 oui.
Mais c'est pas une valeur sûre.
Non.
T'es pas sûr de ton
non.
coup. Et c'est un peu toute la nuance du repêchage, c'est que, évidemment, tu le classes, puis là, c'est comme un consensus général. Puis là, tu dis, OK, on va le prendre à cette place-là parce que, bon, il est classé, il est parmi les joueurs de troisième ronde, mais nous, on l'aime, ce qu'on va le prendre en troisième ronde. Non, non, quand tu l'aimes, là, tu le surclasses. Tu t'assures de le prendre en avant pour être sûr que personne ne le prend devant. Là, je ne sais pas. Peut-être qu'il était classé quatrième ronde puis le Lightning l'a pris troisième ronde.
Peut-être c'est ça qu'ils ont fait.
Peut-être. Ouais. Ça, je ne sais pas. Ouais.
On en parlera à Julien Brisebois quand il aura gagné
la
coupe.
Absolument. On pourra lui en parler. Parce que mais moi, je crois beaucoup à cette philosophie-là. C'est qu'à un moment donné, là, fais les affaires pour toi. Arrête de faire les affaires. Et ça implique beaucoup les dépisteurs, recruteurs, appelez comme tu veux, qui ont à un moment donné à se positionner sur un joueur. Et, Et je pense qu'à un moment donné, quand tu définis qu'est-ce que c'est ton ADN, puis qui tu veux quitter, puis ce que tu veux avoir l'air comme équipe, mais il y a des joueurs sur qui tu dis, moi là, ce gars-là, l'expression, je l'aime. Lui, il cale. Lui, il fit chez nous. Et ça, là, c'est vraiment, pour moi, ça fait aucun doute que les équipes qui travaillent de cette façon-là vont souvent surclasser des joueurs et à la fin du repêchage, vont pouvoir inviter des joueurs parce qu'ils l'ont sur leur liste, personne ne l'a pris, là. Ça aussi, c'est un autre phénomène. Et je pense que c'est important d'être capable d'avoir le courage de tes opinions puis d'arrêter de chercher toujours le consensus. Des fois, c'est important quand il y a de la dissension puis on s'entend pas. Mais lorsque tout le monde au départ a dit, je lisais ce matin encore Danny Machocha, de quoi on va avoir l'air en attaque, de quoi on va avoir l'air en défense, voici qui nous sommes, voici ce qu'on veut faire. Bon, ben là, j'imagine que dans le recrutement de joueurs, ça va être plus facile.
Et là, comme c'est souvent le cas dans nos conversations, on part quelque part, puis ça nous amène dans d'autres discussions, et c'est ça le plaisir de la conversation avec toi. Mais j'ai envie de te demander, puis on en a déjà parlé souvent, mais là, comme le Canadien n'a pas joué depuis un bout de temps, on n'a pas le réflexe de parler du Canadien bien souvent, mais trouves-tu que que Marc Bergevin est arrivé ici en 2012, là, il est-tu arrivé ici avec une vision claire de ce que devait être l'ADN de son équipe? Et si non, trouves-tu que ça a pris du temps à la trouver ou il a tourné d'un rond-point longtemps? Comment tu vois ça par rapport à ça?
Ben moi, ce que j'ai trouvé, c'est que par rapport au développement de l'équipe, j'ai trouvé qu'il y avait une dualité entre ce que Marc faisait comme directeur général et ce que Trevor Timmons faisait comme recruteur. Je trouve qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. Je trouvais que les joueurs que Marc amenait, des fois, ça ressemblait pas aux joueurs que Trevor Timmons recrutait. Je trouvais qu'il y avait comme une espèce de vide entre les deux. Je disais, voyons, ces gars-là, ils se parlent-tu? Ils travaillent-tu ensemble? Tu vois? Et j'ai trouvé que dans l'évaluation dans les prises de décision, l'évaluation de personnel, tout ça, il y a eu un mot qui revenait souvent pour moi, là, qui est émotion. Et je continue de croire que l'émotion, dans le processus de décision, c'est ton pire ennemi.
Fait que, émotion chez les décideurs?
Oui, absolument.
Oui, oui. Émotion par rapport à son propre effectif, parfois aussi. Et quand on dit émotion, ça veut dire... Ne plus aimer tes joueurs ou tomber en amour avec un joueur aux deux extrêmes
Un événement te fait complètement changer de perspective par rapport à un joueur. Écoute, je l'ai vécu, là.
Une partie de carte, non?
peut-être, mais tu sais, des événements, à un moment donné, tu regardes le gars et tu dis, c'est terminé. Lui,
oui,
non,
c'est
non,
fini.
Terminé, c'est fini.
Oui.
C'est fini.
Penses-tu que Marc Bergevin s'est dit ça sur certains joueurs cette année, malgré qu'il ait éliminé Pittsburgh pour accéder aux séries et se faire sortir en première ronde? Penses-tu que, parce qu'on le sait qu'il l'a fait à quelques reprises, y a-tu des gars sur qui il s'est dit c'est fini, puis là, on attend juste le communiqué de l'échange qui va suivre?
C'est plus difficile dans une situation comme celle-ci d'en arriver à cette conclusion-là, parce qu'il n'y a pas eu l'usure habituelle qui fait Et à un moment donné, là, la bouilloire, ça boum, ça éclate. Là.
Ils n'ont pas été en contact assez longtemps.
C'est ça. Ce qui fait que ces situations-là arrivent, puis j'ai toute la compassion au monde. Là. Je suis pas en train de faire le procès de personne.
Non, non.
Je trouve que c'est un milieu qui est très émotif. C'est extrêmement difficile de rester loin de tes émotions lorsque tu prends des décisions. On a tous tendance à aimer plus certains que d'autres. Ceux qui nous donnent pas de troubles, des fois, on a tendance à les aimer plus, mais c'est pas nécessairement ceux-là qui nous font gagner. Il y a un paquet de petites choses comme ça que à un moment donné, il faut être capable de prendre du recul et d'avoir une froideur. Tu comprends? D'être capable de prendre des décisions en fonction de quelque chose. Et là, tu as des convictions, oui, tu crois en des affaires, mais tes émotions reliées à un événement ou à un comportement ou au caractère d'un joueur, il y a personne qui a juste des défauts, là.
C'est sûr.
Et quand tu recrutes un joueur, moi je reste convaincu là, que tu recrutes un joueur, tu le prends là au 7e rang. Comme Jake Evans vient de signer un contrat là, 7e, le dernier, 207 au total, mais 7e, le dernier choix du Canadien de Montréal. Il n'y a pas beaucoup de monde chez le Canadien qui pensait que ce gars-là allait avoir une carrière avec le Canadien de Montréal. Et il est sur le point de tourner une espèce de virage, un long virage, parce qu'on a été patient, parce qu'il a joué dans le système universitaire, donc ça a pris plus de temps pour se développer, mais c'est pas grave, parce qu'on n'est pas obligé d'y offrir de contrat, ce qui est un drame comparativement à ce qu'on vit dans toutes les autres ligues canadiennes. Mm-hmm. Mais quoi qu'il en soit, ça a bien servi ce jeune homme-là. Et aujourd'hui, on voit que le Canadien va étirer la sauce un peu avec. Il est bon dans le cercle de mise en jeu. Il est droitier. On a besoin de...
Et tu analyses comme avec l'idée d'avoir Jack Evans comme centre de ton quatrième trio ou c'est un gars étiqueté pour commencer l'année à Laval?
Ben non, je pense que ce qu'il a montré jusqu'à date, il y a des signes avant-coureur. Il est très intelligent. Son coup de patin est moyen, physiquement moyen, mais il fait tout très bien. Puis je fais juste, la phrase que je viens de dire, je veux pas comparer deux joueurs, je veux juste comparer une situation. Les joueurs ont les qualités qu'ils ont, puis moi j'ai entendu des dépisteurs parler de Braden Point en disant, son patin n'est pas extraordinaire. Mm-hmm. C'est pas extraordinaire.
Comme sur Suzuki, j'ai entendu ça.
C'est
aussi.
Ça, mais il fait tout très bien.
Mm-hmm.
Tu comprends?
Oui.
Alors, c'est sûr que Jake Evans, il deviendra jamais ni Suzuki, ni Braden Point. Mais pour avoir un rôle dans un cadre, c'est un joueur intelligent, tu vois, qui comprend le système de jeu, qui est à l'aise avec ça. Moi, j'adhère à ce genre d'acquisition-là. Puis ça nous ramène à notre discussion, c'est que moi, je pense que lorsque tu repêches un joueur, que tu le repêches premier ou que tu le repêches septième, il faut que tu sois convaincu que ce gars-là a une chance de jouer avec toi un jour.
Tu repêches pas pour repêcher, là. Faut effectivement, je suis tellement d'accord avec toi. Faut que tu ressentes quelque chose. Faut que tu aies envie, à la limite, ou que le dépisteur qui t'a amené à le repêcher, lui, veuille se battre pour lui, même rendu en septième. Puis je pense que les dépisteurs, c'est ça qu'ils font, dans le fond. Je pense que c'est ça l'exercice de vente qu'ils vont faire avec leur DG.
Écoute, il y a
des... Ça veut pas dire que le DG va avoir le même attachement émotif envers le gars qui a, tu sais, où il a acheté l'idée de le repêcher, cependant.
Rappelle-toi de ceci, Mario. C'est qu'à toutes les fois où tu te bats, ça veut dire que le prix à payer, c'est peut-être qu'à un moment donné, tu vas te faire reprocher de t'être battu pour ce gars-là.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pour toutes les raisons que ça... tu sais, alors, il y a des...
Mais ça, c'est pas du leadership positif, ça.
Ben,
c'est
parce qu'il y en a qui
pensent... C'est du leadership d'évitement.
C'est parce que c'est un métier où il y en a qui survivent, mais est-ce qu'ils survivent parce qu'ils ont du succès ou ils survivent parce qu'ils se tiennent à flot?
En tout cas,
moi, je pense que, tu sais, à un moment donné, là, les gens dans une organisation doivent être prêts à se battre pour leurs convictions. C'est ce qui fait les bonnes organisations. Puis à un moment donné...
Faut savoir aussi, se rallier aussi.
Faut savoir... T'as tout à fait raison. Puis ça, c'est... Mm-hmm. Puis à un moment donné, c'est tout ça. Il y a comme une espèce de... Il y a quelque chose qui crée une espèce d'autogestion, tu comprends? C'est que les gens finissent par pas avoir peur de se dire les vraies affaires, de travailler pour un bien commun, qui sont là, mais il y a une honnêteté pour... Mais non, c'est souvent le contraire. C'est que tout le monde essaie de juste faire ce qu'il faut faire pour faire plaisir à quelqu'un pour garder sa job.
En compagnie de Danny Dubé, juste pour revenir, parce qu'on en a peu parlé finalement là, du troisième match de la série entre les Stars et le Lightning de Tampa Bay hier. Bon, Stamkos qui a été une source d'inspiration. Mmh. Crois-tu à ça, toi, vraiment? Même si le gars joue 2,48 puis sur le banc la plupart du temps, puis tu crois à ce facteur-là, oui? Penses-tu que ça peut les transporter pour le reste de la série? Penses-tu que Dallas est sorti de la série?
Parle-en à Denis Savard.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Tu sais, oui, si le joueur est populaire, si le joueur est aimé, c'est un rassembleur, c'est un élément rassembleur. Oui, ben absolument.
Ouais. Et y a bien des façons d'exercer du leadership. Hein. Je sais pas comment ça s'est dessiné, mais juste le fait sans jouer, qui l'accompagne. T'sais, on dit que beaucoup de gens, beaucoup d'athlètes et de personnels ont du mal à rester dans la bulle. Quand toi, t'es même pas sûr que tu vas chausser les patins pendant tout ce tournoi-là et que t'es là du début jusqu'à la fin, c'est une autre source d'inspiration, mais qui marque un but pendant le peu de temps qu'il a joué. Avoue que c'est quand même, ça ajoute là à sa légende. Lui, là, il a pas été chanceux dans la vie. Là. Il en a manqué des matchs de série, des matchs olympiques. Là, des grosses blessures au mauvais moment.
Oui, exactement. Mais c'est un tireur. T'sais, dans le cas de Steven Stamkos, c'est toujours le même débat. C'est bon, est-ce que c'est un tireur, mais est-ce que je peux l'utiliser dans toutes les phases de jeu? C'est toujours la même chose. Tu te souviens quand je t'ai parlé de Barzal qui était sur des séquences et tu lui demandes d'être à une place, mais il sait pas trop comment jouer défensivement. Mm-hmm. Parce que c'est un joueur tellement talentueux en attaque. C'est pas ça. Ben, Stamkos, on est un peu dans ce registre-là. On est un peu dans cet état d'esprit. Ce qui va faire que Stamkos va devenir, tu sais, va être à son maximum en termes d'efficacité, c'est son entourage. Parce que il est assez unidimensionnel, mais cette dimension-là, quand tu le vois sur une séquence en avantage numérique ou encore lorsqu'il y a du temps pour tirer comme sur son but, ben écoute, c'est un joueur spécial. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sont capables de faire ça.
Il a peut-être eu le privilège de jouer avec des bonnes équipes la plupart du temps en carrière, mais il y a un différentiel de plus 44 cumulatif en carrière. Il y a une seule saison. Non, c'est pas vrai. Il y a trois saisons dans les moins. C'est deux premières, moins 13, moins 2, puis une couple d'années plus tard, moins 4. Mais tu sais, ça dit ce que ça dit. Là, ça dit pas tout. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Là. On a vu
non, mais c'est un indicateur. Il est responsable. Je suis pas en train de dire que c'est un tricheur dans sa manière de jouer. C'est pas mon point. Comme pour Barzal, j'aurais le même réflexe, je te dirais. C'est pas un tricheur. Ces gars, il est animé par de la bonne volonté. On le sent bien lorsqu'on le regarde jouer. C'est juste que c'est pas. Tu sais, le gars, toute sa carrière, il a jamais joué comme ça. Ça n'a jamais été d'être responsable dans toutes les phases de jeu parce que, bon, c'est ça, là. Mais il arrive un temps dans ta carrière, tu veux gagner la Coupe, mais là, ça va être plus difficile de marquer des buts, donc ça va être plus important de tout ce que tu vas faire dans le 60 minutes ou dans ton 20 minutes de jeu. Alors, face à tes coéquipiers, face à ton entraîneur, face à tout ça, c'est la clé, elle est là. Moi, je pense que et ça nous ramène à l'ADN d'une équipe. Et lui, il cadre très, très bien parce que le Lightning apprend, je pense, à gagner au fil des années, dans la douleur, la souffrance, la frustration d'être éliminé, d'être passé proche, pas gagner. Mais tout ça fait de cette équipe-là une équipe de plus en plus dangereuse, en termes de plus en plus respectable et qui aspire aux grands honneurs. Puis je regarde jouer Victor Hedman, pour moi, là, écoute, ce gars-là, il est extraordinaire. Ouais, vraiment, là.
C'est peut-être le meilleur défenseur des 20 dernières années dans la Ligue.
Ah, my.
Il y en a eu des bons, là, je passe peut-être vite sur d'autres, là, mais en tout cas, en le voyant là, à son époque, là, au sommet de sa carrière, là, c'est impressionnant. Danny, une petite question comme ça, parce que là, tu sais, c'est la formalité du fait que Kovalchuk est libéré par les Caps de Washington.
Ouais.
J'ai hâte de voir comment Marc Bergevin va déployer ses outils et les cartes qu'il y a dans son jeu dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais si ses plans A n'aboutissent pas comme il le souhaite, dans un rôle bien déterminé, là, pas à 20 minutes par match, là, parce qu'à un moment donné, on était tombé dans l'autre extrême, mais Kovalchuk, dans un rôle précis de mentor, un gars qui est de bonne humeur, pas coincé dans un marché où il y a beaucoup d'attention médiatique, qui décoince peut-être des leaders qui sont pas très, très, disons, toujours souriants devant la chose, façon de parler et l'imager. Vois-tu une utilité à le ramener ou c'est fini? On passe à un autre appel.
Ben écoute, j'ai de la difficulté à voir Kovalchuk revenir dans une situation où on veut vraiment amener l'équipe à un autre niveau. Je pense que lorsqu'on a...
J'ai parlé de plan B, là.
Oui, oui, c'est ça. Lorsqu'on l'a amené, c'était comme un petit cadeau pour les partisans, une espèce de... OK, on se sent bien.
Un antidépresseur.
C'était un petit quelque chose. Tu sais, là, écoute, on n'a pas eu un bon repas, mais on va avoir un bon dessert.
On
va mettre un petit peu de sucré dans ton assiette.
Ouais.
Non, mais c'est un peu ça. C'est correct, parce que j'ai trouvé que c'était c'était brillant comme décision, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que sur le plan hockey, on est plus dans le plan spectacle? Est-ce que sur le plan hockey, c'est quelque chose qui va faire que l'équipe du Canadien va progresser l'an prochain? J'en doute.
Alors, Danny, sur ce, merci beaucoup. À bientôt, probablement demain, à quelques heures du match numéro 4. Je te dis bonne soirée, bon jeudi soir, mon cher.
Merci. Et la seule bonne décision de Lou Lamoriello, à part vers la mauve, c'est Barrett Trotz.
Ah, écoute, on épluchera ça ensemble, mais c'est-tu quoi? Mais c'est pas banal d'engager le bon coach, hein? Parce qu'il y en a qui ont tourné en rond pendant 20 ans. Merci, Danny.